plus en plus veulent devenir écrivains.
Les maisons d'édition croulent sous les manuscrits de toute qualité. Apparemment, beaucoup d'entre nous se rêvent écrivains. Mais suffit-il d'écrire pour le devenir? C'est la question que nous mettons en débat ce soir dans Hello le Monde.
Vous avez toujours rêvé d'écrire un livre, vous avez essayé, renoncé, vous avez publié un ouvrage resté ou non confidentiel. Vous avez des secrets d'écriture peut-être à nous partager. Apportez-nous en tout cas votre témoignage ce soir en formant le 070 66 55 44 ou en nous laissant un message ou une note vocale sur WhatsApp.
Allô le monde sur WhatsApp 0471 200 500, 0471 200 500.
Et nos invités ce soir sont écrivains et écrivaines et ont beaucoup réfléchi à ce qu'écrire voulait dire. Avec nous, Nathalie Skovronek, vous avez signé avec Jean Roux Nécessaire d'écriture, conseil aux jeunes romanciers, et Alexandre Lacroix, vous venez de publier Devenir écrivain, un récit autobiographique dans lequel vous racontez vos débuts d'écrivain depuis les premiers brouillons à l'adolescence jusqu'à la publication de votre premier roman à l'âge de 22 ans. Une histoire que vous adressez à celles et ceux qui se demandent comment on devient écrivain. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus, vous êtes avec nous en duplex depuis Paris. Nathalie Skovronek, est-ce que tout le monde peut écrire un livre ?
Mais déjà, tout le monde ne veut pas écrire un livre, donc ça se limite à un certain nombre.
Mais pour celles et ceux qui veulent, qui le souhaitent ?
Tout le monde peut essayer, la plupart des gens ici écrivent, c'est pas comme le dessin ou comme d'autres médiums où il faut il y a déjà une première barrière, donc tout le monde a la faculté, a la possibilité d'écrire. Tout le monde ne deviendra pas écrivain, tout le monde n'ira pas au bout du parcours de combattant qui est l'écriture d'un livre et après sa publication. Mais en tout cas, il y a un présupposé, vous voulez écrire, et ben il y a une seule règle, si vous voulez écrire, il faut écrire.
Alexandre Lacroix, j'aimerais vous faire réagir à ce paradoxe qu'on évoquait en début de séquence, le fait que de moins en moins de gens achètent des livres, mais que de plus en plus veulent devenir écrivains, parce que c'est une réalité, toutes les maisons d'édition le disent, les manuscrits arrivent par centaines, on a vu ça de manière assez même exponentielle pendant la période Covid.
Oui, c'est-à-dire que je crois que l'expression parcours du combattant, c'est assez juste. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on peut se lancer dans l'aventure de l'écriture, on peut publier, il y aura des obstacles sur la route. Mais je dirais que quand on se lance dans l'aventure de l'écriture, il faut lire. Alors moi, je voudrais pointer un autre paradoxe, où je pense que la résolution du paradoxe que vous citez, c'est qu'en fait, il n'y aurait aucun problème si les gens étaient vraiment convaincus que pour nourrir leur écriture, l'affiner, la développer, il fallait absolument lire en grande quantité. Je crois qu'on devient écrivain en étant lecteur. Et l'idée qu'on puisse aller en quelque sorte directement à l'expression en enjambant complètement l'effort de lecture et d'appropriation de ce qu'ont fait les autres, c'est d'une grande naïveté. C'est comme si vous vouliez devenir musicien de jazz sans jamais écouter un disque de
jazz.
Mais
ça permet quoi précisément de lire les autres ?
C'est comme un carburant. C'est-à-dire que vous avez, quand vous écrivez, vous dépensez des mots, vous utilisez des mots, des formules, vous videz en quelque sorte une sorte de réserve ou de citerne, et si vous n'alimentez pas cette réserve ou cette citerne d'expressions, de mots, de tournures, de métaphores, d'adverbes, d'adjectifs, vous allez vous retrouver au bout de 2-3 jours complètement à sec, refermé, replié sur votre propre champ lexical, et ça va être très difficile de continuer. En fait, la lecture vient nourrir en permanence, vient remplir la citerne, vient vous permettre en fait d'avoir du carburant pour avancer encore. Donc la lecture nourrit directement votre écriture.
Il faut lire pour se nourrir, Nathalie Skovronek. En revanche, le défi après, c'est de ne pas singer, de ne pas faire écrire comme ceux qu'on aime.
Alors l'écriture, c'est un temps long qui se passe par étapes, il y a des strates, il y a des niveaux d'écriture. On sait très bien que tous les peintres ont écumé tous les grands musées du monde, ont commencé par reproduire, par copier, et petit à petit on se défait, on transgresse les règles. Donc c'est pas qu'on a une formule, une recette pour devenir écrivain, et devenir écrivain c'est moins se construire que se déconstruire. Petit à petit on enlève les couches, on se débat de l'idée qu'on se dit de comment il faut écrire, de tout de suite changer de langue, changer de position pour aller au plus vrai de sa propre voix. Et ça passe évidemment par un grand et un long compagnonnage avec les auteurs, parce que l'outil le plus précieux quand on écrit, c'est pas sa main pour former les mots, mais c'est son oreille. C'est vraiment à l'oreille que petit à petit on entend si on est juste, si on n'est pas juste, et l'oreille elle se forme au contact des grands auteurs. Et lisez toujours les plus grands et les plus inspirés, certainement pas en se disant mais après je vais être trop intimidé ou je vais jamais pouvoir écrire, mais parce qu'il faut être élevé par ces gens-là.
Carole est avec nous au bout du fil. Bonsoir Carole.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine, en tout cas, vous avez déjà signé 3 livres, c'est ça hein?
Alors le troisième, j'espère qu'il sortira
C'est en cours. L'écriture est terminée?
L'écriture est terminée, la première salve de bêta lecteur est faite. Donc là je suis dans la correction. Une fois que la correction sera faite, on relance chez des bêta lecteurs et puis on croise les doigts et puis on passe. Moi, je suis passée par le livre en papier, pas par une maison d'édition parce qu'effectivement, il croule sous les manuscrits et j'avais envie d'arriver au livre.
Et vous n'avez jamais tenté d'envoyer vos livres à des grandes maisons d'édition ?
Alors, le tout premier, j'ai envoyé. Je ne me souviens pas le nom de la maison d'édition, mais il me demandait quand même 2000 euros. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très cher, vraiment. Donc, j'ai abandonné.
Et pourquoi écrivez-vous ?
Alors, mon premier manuscrit, je l'ai commencé à 18 ans. Et c'était à la suite d'un incident qui s'était passé en réto. Et puis, j'avais mis le manuscrit dans un tiroir. Je pense qu'à ce moment-là, c'était pour déposer quelque chose qui m'avait heurté. Et puis, 30 ans après, le manuscrit est ressorti du tiroir. Et je l'ai lu et j'ai dit, wow, mais c'est bien écrit. J'ai continué l'écriture en faisant des petits aménagements. Parce que dans mon premier, c'était le franc. Et puis, on était passé à l'euro. Donc voilà, tous des petits aménagements assez sympas. Et le deuxième, c'était intuitif. J'étais au milieu des fleurs. Donc, j'ai fait une histoire avec les fleurs, c'est assez poétique.
D'accord.
Et puis
et pour le troisième, apparemment, vous n'avez pas écrit toute seule dans votre coin, vous vous êtes fait accompagner.
Voilà, donc j'avais écrit les deux premiers de manière instinctive et je sentais bien qu'il me fallait quelque chose. Alors je suis institutrice, donc j'avais quand même la trame narrative développée, mais il me manquait quelque chose et donc j'ai fait appel à Laurence Legrand, qui proposait l'Odyssée de Laurence Legrand. Et nous sommes 7 auteurs. Et dans les premières séances, donc c'est tous les jeudis soirs en team, ces premières séances, c'était surtout de la théorie.
Un accompagnement.
Un accompagnement, il y a un jargon et tout ça. Puis alors là, on écrit chacune notre livre, on se rencontre le jeudi soir pour se remotiver, hein, parce qu'il y a quand même des hauts et des bas dans une écriture.
Et Nathalie Skowronek parlait d'ailleurs tout à l'heure de parcours de combattant. Merci pour votre témoignage, parce que c'est intéressant, vous auriez pu faire appel en fait à Nathalie Skowronek ou à Alexandre Lacroix, puisque tous les deux, vous menez des ateliers d'écriture.
Exactement.
Alexandre Lacroix, qu'est-ce que vous observez dans ces ateliers d'écriture ? Qu'est-ce qui pousse les gens à écrire ?
Donc, moi, je suis président, cofondateur d'une école d'écriture qui s'appelle Les Mots, et qui est à Paris, mais depuis le Covid, tous les cours sont en hybride, hein, distanciel et présentiel. Il y a 2500 à 3000 participants aux ateliers chaque année, pour 150 écrivains qui viennent. Et je dirais que donc c'est une sorte de chaudron, hein, c'est-à-dire qu'il s'écrit tout le temps plein de nouvelles, de pièces de théâtre, de chansons, de poèmes dans les murs de cette école. Certains sont publiés. Moi, je dirais qu'il y a une répartition. Il y a peut-être un tiers des gens qui font entrer une pratique d'écriture dans leur vie, comme on ferait rentrer un cours de tango ou un cours de dessin, c'est-à-dire pour tout le bonheur que ça procure, et qui n'ont pas spécialement un objectif de publication en tête. Et puis je dirais qu'il y a un tiers des gens qui ont, eux, un vrai projet, ils ont une histoire à raconter, ils vont insister, ils vont prendre des cours, ils vont se faire accompagner, ils vont aller vers des types d'ateliers où il y a un suivi de manuscrits, exactement ce que décrivait votre auditrice.
Carole.
Exactement ce que décrivait Carole, c'est-à-dire des séances de travail où on vient faire état d'un work in progress, d'étapes de travail. Et donc ça, c'est un accompagnement vers l'acte de publication. Et puis je dirais qu'il y a un tiers des gens qui manient l'écriture à titre professionnel, qui sont dans le marketing, la publicité, qui sont dans la diplomatie, enfin, où vous voulez, et qui en fait veulent sortir, veulent casser des réflexes d'écriture qui se mécanisent avec le temps. Si vous écrivez si vous êtes rédacteur dans la publicité ou même dans le scénario ou même dans le journalisme, parfois il y a des journalistes qui viennent, vous êtes content d'avoir Chloé Delhomme, Yannick Enel, d'avoir un auteur qui vient vous bousculer dans votre écriture un peu mécanique, un peu sèche, pour vous apporter une dimension créative en plus.
Nathalie Skovronek, vous conseillez dans votre livre Nécessaire d'écriture de se demander précisément pourquoi on écrit. Est-ce que vous avez pu répondre à cette question clairement? Pourquoi est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez eu l'ambition de faire des textes pour la postérité, par exemple, de faire œuvre pour laisser une trace? Ouais.
C'est une question qu'on se pose tous les matins, auxquelles on n'a pas la réponse, si ce n'est qu'on sait que c'est une nécessité. Il y a eu, je raconte dans le nécessaire d'écriture, plusieurs fois des enquêtes. On demande aux écrivains pourquoi ils écrivent. Alors il y a parfois des réponses très lyriques, hein, parce que c'est la passion de ma vie, etc. Est-ce que je veux donner un sens à l'existence, trouver le bonheur? Et puis il y avait cette fameuse réponse de Samuel Beckett, bon qu'à ça, et qui est évidemment resté célèbre et dans laquelle on peut entendre pas de plan B. Je pense que c'est important quand on veut écrire, en tout cas quand on veut écrire et prendre part à un chemin littéraire. Il y a effectivement des écritures récréatives, c'est autre chose, mais il faut pas avoir de plan B, sinon on peut vite décrocher. Et puis il faut avoir le sentiment aussi, c'est toujours un petit peu compliqué à dire, mais qu'on est bon pour faire ça, que c'est notre endroit, que c'est un endroit où on peut apporter quelque chose. Et moi, je suis arrivée dans l'enseignement de l'écriture créative tout à fait par hasard. J'ai été sollicitée par la Cambre à Bruxelles quand ils ont ouvert un master en écriture contemporaine. Et j'ai vu que vraiment, j'adorais ça. Et j'adorais ça avec différents publics. Il y a des gens qu'on accueille qui sont plus dans une démarche presque de développement personnel. Qui je suis, pourquoi je suis là, quel sens je vais donner à ma vie. Et puis d'autres qui ont vraiment un amour, une connaissance de la littérature. Et effectivement, il y a cette envie. Alors, laisser des traces dans le monde actuel, tout va tellement vite et les librairies s'effondrent et les lecteurs ne sont pas toujours au rendez-vous. Tout ça est très compliqué, mais il y a encore un pôle de résistance où effectivement on a l'impression que c'est par les mots qu'on peut attraper quelque chose du monde actuel. Ça fait des grandes phrases, mais c'est une occupation à temps plein.
Bonsoir Lorraine. Vous êtes vous aussi écrivaine et vous méfiez de ChatGPT et de ses amis apparemment.
Alors, je vais dire que je ne me méfie pas. Disons que l'intelligence artificielle, c'est pour moi un débat de société et on peut l'aborder de différentes façons, sous différentes facettes. Bon, il y a tout l'impact environnemental, il y a tout l'impact aussi éthique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ici, il y a quelques jours, il y a quand même une start-up américaine d'intelligence artificielle qui s'appelle Anthropic, qui a accepté de verser au moins 1,5 milliard de dollars envers des ayants droit et des éditeurs parce qu'ils avaient téléchargé illégalement des millions de livres. Donc effectivement, en tant qu'auteur, d'entendre ce genre de choses, il y a Meta aussi qui est l'institution mère de Facebook qui est aussi accusée d'avoir volé le travail d'une certaine façon des auteurs pour après l'utiliser pour générer et peut-être justement arrêter le travail des auteurs actuelle, puisque peut-être qu'un jour l'intelligence générative va permettre d'écrire des livres entiers. Et sans vouloir alarmer certains auditeurs qui ont envie d'écrire, ça s'entend qu'au niveau des maisons d'édition, il y a de plus en plus de manuscrits où ils ont des soupçons, voire même ils ont la confirmation qu'il y a des parties qui ont été écrites par l'intelligence artificielle.
Merci Lorraine pour cette intervention. Le Goncourt signé par une IA, c'est pour dans combien de temps, Alexandre Lacroix?
Ben, ça a eu lieu au Japon, c'est-à-dire le premier prix de littérature japonais a été remis il y a 2 ans à une jeune femme qui a avoué que 5% de son texte venait d'une IA. Je ne sais pas si c'est ChatGPT. Moi, je suis beaucoup moins pessimiste. Je pense que, en fait, les outils connectés, par exemple Google, si vous vous remettez dans le contexte des années 1990, Arthur Pérez Reverte, qui est un écrivain espagnol, a choqué en disant qu'il se documentait sur Google, notamment sur Google Maps, pour ses romans, qu'il allait voir les lieux, qu'il allait se renseigner sur les les métiers, sur... Et les autres écrivains ne faisaient pas ça, parce que les écrivains sont un peu des dinosaures technologiquement. Et dans 10 ans, ce n'est pas que les IA vont écrire à la place des écrivains, c'est qu'ils vont, les écrivains vont se servir des IA. Moi, j'anime un atelier qui s'appelle Laboratoire de l'IA, où on essaye d'avoir des usages créatifs pour dire, aujourd'hui, j'ai fait un cours, un atelier, et ce que j'ai montré, c'est qu'on pouvait discuter avec son personnage. Si on donne à une IA une fiche personnage assez détaillée, et que, par exemple, votre personnage, c'est une adolescente qui vit à Los Angeles, vous pouvez lui demander ce qu'elle mange, de quelle couleur elle s'habille, quelles sont les marques qu'elle porte. Et là, là-dessus, l'IA est bonne, elle n'écrit pas à votre place, mais elle vous permet d'accéder à une documentation fiable, statistiquement inouïe. Si vous voulez avoir une discussion en créole, par exemple, avec un homme de 50 ans de La Réunion, vous pouvez le faire. Ça vous demanderait des heures et des heures de travail et d'immersion que de parvenir à ce type de renseignements et à ce type de matériaux si vous êtes romancier. Donc on a là un outil. La question est de savoir en faire un usage créatif et de ne pas faire comme les collégiens qui font en gros écrire la copie à leur place par l'IA. Ça, c'est l'usage bête, mais il existe des usages très intelligents de ces outils.
Ça m'amène à cette question, Nathalie Skovronek. Est-ce qu'on écrit bien, est-ce qu'on ne décrit bien aussi que ce qu'on a vécu, ou est-ce qu'on peut aller puiser dans toutes ces ressources pour faire des livres?
Et il nous reste 30 secondes.
Je crois qu'on écrit bien en connaissance de cause, et que c'est toujours important que ce qu'on écrit soit relié d'une façon ou l'autre à nous. Après, ça n'empêche pas des filtres infinis. On peut injecter des émotions personnelles à des personnages de fiction. On peut parler des Martiens et les relier à des choses qu'on a traversées. En permanence, c'est très homéopathique, mais on est en permanence en train de construire un Lego, et ce Lego ne sera que plus vivant que s'il s'imbrique de pièces de nature différente. Et s'exclure de ce montage-là, oui, on y perd beaucoup, je pense.
Nathalie Skovronek et Alexandre Lacroix, merci à tous les deux pour ces échanges passionnants ce soir sur La Première. 18h.